La première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire ?
Par où dire ?
Vous pouvez évoquer Michel Van Dyck. Ici au musée Van Buren,
Bruxelles, ville d'art contemporain, jusqu'au 30 septembre, au musée Van Buren, présent. Installation dans les jardins dans le musée.
Il y a 2 ans, on avait fait une première expo qui s'appelait « Comme si de rien n'était ». Et l'idée à l'époque, c'était d'investir les lieux, mais d'une manière très discrète. C'était presque une chasse au trésor pour retrouver les œuvres d'art des artistes, enfin certains en tout cas.
Avec Isabelle Ansbach, Michel Van Dyck, Jonathan Sulam, Lucas Fitonnet, Marcel Berlanger, Benoît Plateus, Charlotte Van der Borg, Vincent Chenu, et les voix d'Anthony Caro, Anne-Claudie Coric et Marie Goyette.
À vos yeux, Isabelle Ansbach, qui est le commissaire de l'exposition ?
Ah, Michel Van Dyck, qui est-il ?
2 ans plus tard, Isabelle Ansbach, la conservatrice du musée, m'avait demandé si on pouvait pas refaire une nouvelle édition. Je trouvais que c'était un peu dommage de refaire comme si de rien n'était deux, ça ne se présentait pas vraiment. Et je trouvais que dans l'évolution, c'était intéressant de venir avec une autre proposition. Et on est venu avec cette idée de présent.
Pour moi, la chose la plus importante, c'est un de mes grands amis. C'est quelqu'un qui, humainement parlant, est assez exceptionnel, qui a le défaut de ses qualités, c'est qu'il est excessivement humble et discret. Et donc, je trouve que ses expositions, c'est comme ça qu'on a commencé il y a 2 ans, ses expositions ont un côté un peu thérapeutique, c'est qu'il apprend à se mettre en avant. Et voilà, c'est pas toujours négatif de se mettre en avant. Il est l'auteur d'un deuxième très beau projet, eh bien, je trouve que sa place est devant et qu'il apprend à l'assumer de plus en plus. C'est très chouette. Oui, vraiment, c'est quelqu'un de bien.
Mais qui n'est pas professionnel du monde de l'art.
Non, il était à la base publicitaire et puis il a arrêté il y a quelques années. Il cherchait des projets. Il avait vraiment envie de trouver des projets. Et puis il est venu me trouver il y a 2 ans, 3 ans et il m'a dit... Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire une collaboration, toi et moi ? J'ai dit, mais moi, avec toi, je suis vraiment partante, qu'est-ce que tu me proposes ? Et donc, il m'a expliqué comme si de rien n'était. Et nous voilà 2 ans plus tard avec Présent.
Et comme si de rien n'était, c'était le titre ?
De l'exposition précédente, c'est vraiment... Mais ici, on est quand même fort dans le même état d'esprit, avec des œuvres qui sont au détour d'un regard. On trouve une œuvre qui a l'air d'avoir toujours été là. Il y en a d'autres qui sont plus présentes, mais c'est quand même un peu dans le même état d'esprit. Et ce qui est très, très gai aussi, je pense que ça va être un succès au niveau des familles.
Bruxelles Gallery Weekend, du 6 au 9 septembre, Sybille Duroy. Art on Paper, au Palais des Beaux-Arts, du 7 au 9 septembre, Albert Baronion, Cécile Servet.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Des places de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, va s'inquiéter.
C'est une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Aleschinski.
Authentique, me tento, me tento, me tento, stélé.
Le monde invisible.
Michel Van Dyck, en vous écoutant, je pense à la visite que j'ai faite l'année dernière, vers cette époque, dans les mêmes lieux.
No, it's my life. For me, it's my life. But for the rest of the world, like everybody, of course it's futile. It's a little pisser. You know, it could be football, it could be anything. It's the activity that I've invested my life in. And it's a tiny, tiny, tiny bit. And that bothers me sometimes.
Assister à cette très belle rétrospective du... Le sculpteur anglais Anthony Caro.
Oui,
vous aviez vu l'exposition ?
Oui, je suis passé. Oui. Mais là, effectivement, on n'est pas tout à fait dans le même propos, mais je veux dire, je ne m'inscris pas du tout en contre. Mais c'était exceptionnel, c'était une superbe exposition. Effectivement, ses œuvres, elles étaient très présentes aussi.
Vous parlez de Michel Van Dyck ?
Oui, je parle de Michel Van Dyck.
Vous vous souvenez, il y a 2 ans ?
Ah oui, je me souviens, il y a 2 ans. Et c'est un beau moment, court, très réussi, avec beaucoup de feedback tellement positif qu'on s'est dit, bon, voilà, on va faire édition numéro 2. Est-ce qu'on prend le même titre? Est-ce qu'on ne prend pas le même titre? Moi, perso, j'aurais repris le même, parce que je pense que les gens se repèrent par rapport à quelque chose qu'ils ont déjà entendu, mais comme c'est lui le grand chef, il a dit non, moi je préfère présent, donc voilà, nous voilà dans présent. Et beaucoup plus grand, beaucoup plus d'artistes, pas mal d'œuvres faites in situ, beaucoup de jeunes.
Et le présent, c'est ce qui se passe maintenant à Bruxelles ou en Europe en général. Et aussi le présent, c'est un cadeau que font les artistes au musée, et le musée fait aussi aux artistes, une manière de se faire plaisir aussi.
Le pied dans cette expo, c'est d'ouvrir le musée, qui est une institution ancienne, entre guillemets, à l'art hyper contemporain. Donc ça, c'est très très gai, ça donne un sang neuf au musée, ça amène de nouveaux artistes, ça fait découvrir à toute une tranche de population qui ne connaissait pas du tout. Beaucoup d'artistes qui exposent ici ne connaissaient pas.
Bruxelles, ville d'art contemporain. Par Thierry Genico. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Et Michel Van Dijk, le commissaire, vous le connaissez?
Alors je le connais un peu, oui, je le trouve très sympathique. Et je trouve qu'il a justement chaque fois des projets, il avait fait la même chose l'année dernière. Cette fois-ci c'était plus un goûter, l'année dernière on a eu un pique-nique je crois plutôt pour le vernissage. Qui est toujours super sympa, il connaît plein d'artistes, j'imagine que c'est aussi via Sophie, sa femme.
Il y avait le présent de la scène artistique bruxelloise, une jeune scène qui émerge aussi. Et donc voilà, ça c'était un petit peu le fil rouge entre les deux, et surtout d'avancer dans le même projet, parce qu'on reste quand même, tout est assez subtil et discret, mais chaque artiste a sa manière d'être présent. C'est un peu comme quand on arrive à un endroit et qu'on vous demande... On dit votre nom et vous dites que vous êtes présent. Ben, certains ont une voix forte, d'autres sont plus discrètes. Ben, c'est ce qu'on retrouve un peu ici. Tout en respectant le lieu, parce que c'est un lieu qui est quand même assez unique et ces jardins sont magnifiques. Et donc on ne voulait pas non plus arriver d'une manière ostentatoire avec des œuvres très très fortes qui pourraient être en rivalité avec le jardin.
Sybille Duroy.
Alors moi, non. Je ne sais pas ce qu'on appelle professionnel de l'art, justement. Moi, je n'ai pas étudié l'art. Après, j'ai été baignée dans l'art depuis que je suis petite. Et puis, j'ai travaillé pendant 10 ans en galerie. Et aujourd'hui, je fais mon petit chemin en faisant plein de projets différents.
Il y a 2 ans, le propos était assez simple pour moi. C'est que c'était un peu mon entourage proche. J'avais retrouvé des amis, je leur en parlais et chacun... avait participé un peu de cette manière-là. Et puis maintenant, je connais une petite partie de la scène, mais je ne suis pas non plus introduit partout. Et je dirais que c'est un peu comme une boule de neige. Je vais aller voir un atelier, on discutait avec des artistes, par exemple les plus jeunes artistes, un peu comme ça. Ils me disaient, ah, mais tiens, par rapport à ça. Et des fois, même, ça répondait juste à des éléments dans le musée. En voyant un élément, on me disait, tiens, mais ça serait bien avec une œuvre de tel artiste. Et puis j'allais le voir, et effectivement, on s'est retrouvé comme ça avec des choses assez étonnantes et c'est un chouette propos et c'est assez drôle parce que ce qui me fascine, c'est que d'un coup il se passe quelque chose de magique parce que c'est assez intéressant d'aller voir des œuvres et de les placer et de faire une espèce de composition, une direction artistique, mais quand on est surpris par ce qu'on voit et qu'on est dépassé, c'est là que ça devient magique quoi. En tout cas pour moi, c'est là, c'était tout un bonheur de voir effectivement que chaque fois il y avait des propositions qui allaient plus loin ou qui changeaient.
Jonathan Sulam.
C'est de jouer sur la présence des choses et le micro pour moi était une interface qui se référence vraiment à la présence du personnage, de l'orateur, qu'il soit politicien, musicien, popstar.
Et alors lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a installé son micro.
L'objet métonymique qui rassemble toutes ces différentes postures qui se veut vu et entendu, quoi. Donc le micro... est coulé en bronze, il est non fonctionnel. Il rappelle quand même cette possibilité du discours. Il est là, placé au milieu du jardin, comme ouvert à l'engagement. Et autour du micro, il y a une passiflore qui pousse et qui enlace jusqu'au micro, à travers tout le pied du micro, qui enlace l'objet jusqu'à l'étouffer quelque part. La passiflore, à l'origine, c'était la plante que les Aztèques utilisaient pour anesthésier, en fait, l'animal qu'il chassait ou pour des raisons médicinales aussi. Et donc la passiflore a cette vision très poétique et romantique et en même temps c'est l'élément qui étouffe la fonction du micro et va petit à petit l'annuler en fait. Donc il y a une espèce d'urgence aussi à s'engager dans le fait de prendre le micro, de prendre la parole.
Et alors il y a une plante, une passiflore qui est en train de grimper tout le long de son micro et qui va rester pendant tout le temps de l'exposition et qui va fleurir là, comme si la plante prenait la parole. Enfin, tout le monde est invité à prendre la parole, mais...
Je voulais pas placer juste une sculpture dans le jardin, puisque je crois que le commissaire a vraiment une vision assez raffinée de la question de l'intégration, et l'expo précédente était vraiment basée sur des pièces qui étaient délicatement ou imperceptiblement placées dans l'espace. Donc je voulais que, tout comme le micro, qui parle de la présence sans qu'il y ait la présence du corps, soit vraiment lié à la question de la nature et aux plantes. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée vraiment de joindre les deux ensemble.
D'un coup, la nature prend aussi le discours et s'intègre. Et donc les fleurs devraient bientôt s'ouvrir. Voilà, on voit le début.
Avez-vous la mémoire de cette exposition magnifique qu'on a pu voir l'année dernière et qui a eu beaucoup de succès ?
Voilà, qui était un grand, grand nom avec Anthony Caro, artiste anglais décédé quelques années auparavant.
Un clou d'Icory.
C'est de l'acier qui a juste été galvanisé. Hein, donc, et il y a deux types de matières, donc il y a l'acier galvanisé et puis il y a l'acier peint avec un bleu simplement un petit peu plus soutenu. Donc là, quand on regarde le plan intérieur de la sculpture, on est vraiment dans un tableau, avec des triangles, des diagonales, des cylindres. Là, on n'est plus du tout dans la machine. On est vraiment dans une architecture. C'est typique de ces œuvres plus tardives des 20 dernières années, qui étaient plus des réflexions sur l'architecture.
Do I like what I'm doing? I don't know what I'm doing. I can see you don't know either.
Il se revendiquait beaucoup plus de l'histoire de l'art. Il adorait la Renaissance italienne. Donc on commence à voir apparaître dans les années 90 des références au Duccio, à des bleus comme ça, à des églises. Le grand projet de la fin de sa vie d'ailleurs, c'était ce cœur de lumière qu'il a fait à Bourbourg. Une église gothique avait été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et dans laquelle il a fait une intervention. Et où c'est vraiment une sorte de descente de croix avec des vraies références à l'art classique. Donc là, on voit que ça commence tout à fait dans ce type d'œuvre, cette étrange structure. Je me rappelle qu'il m'avait expliqué une fois qu'il était fasciné dans les annonciations. Vous savez, dans les annonciations, vous avez souvent Marie comme ça, qui est dans une sorte de drôle de petite structure, drôle de petite maison, parce qu'elle est dans un entre-deux comme ça. Hein. Vous avez l'ange qui arrive pour lui annoncer qu'elle va avoir un enfant. Et elle est souvent dans ces drôles de structures comme ça. Et ça l'intéressait beaucoup.
Alors ici, c'est peut-être la pièce la plus spectaculaire et la plus visible dans la proposition. Ce sont des céramiques de l'artiste Beth Stuttgart qui est représentée par Pierre-Marie Géraud ici à Bruxelles.
Sibylle Duroy.
Ce musée Van Buren à Uccle.
Oui.
Vous y êtes allé pour revoir cette exposition que Michel Van Dijk a montée sous le titre « Présent ».
Exactement, j'y étais deux fois même.
Des céramiques assez extraordinaires, parce que d'abord par leur volume, la texture aussi. Alors c'est assez une prouesse de les avoir mis à l'extérieur, parce que normalement on les trouve en général, ce genre de pièces se trouve à l'intérieur. Moi personnellement je le voyais comme une forêt, donc je trouvais que ça faisait du lien par rapport au jardin. Mais l'artiste le voit aussi comme des nuages. Et ces couleurs, c'est effectivement tout ce qu'on peut retrouver dans les nuages. Alors certains sont pollués, d'autres pas, et tout ce qu'ils transportent avec eux.
Il y a quelques semaines avec un ami étranger et le jour du vernissage. Exactement. C'est un des endroits que j'adore présenter à des amis, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez authentique. En plus, avec l'ajout de Michel, ça représente quelque chose d'assez belge et sympathique. Donc voilà.
Alors là, il y a une pièce de Roland Twillings. Qui est sculpteur, et ici on se retrouve avec le paradoxe un petit peu de, effectivement, est-ce que c'est une cabine électrique, puis on voit bien qu'elle a quand même une forme un petit peu particulière, elle est retravaillée, et ça devient un élément sculptural. Et donc Roland joue énormément avec cette dualité où les objets se perdent et se changent aussi dans des univers.
Et parmi les œuvres dans le jardin ou dans la maison, quelles sont-elles celles qui vous a attiré le plus?
Alors j'ai beaucoup aimé les céramiques, parce que j'aime les céramiques tout simplement. Après, il y a un artiste que j'aime énormément dans la maison, qui est David Adamo. Il était tout petit, tout discret, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de travailler. Et c'est vrai que ça me faisait plaisir de le retrouver là.
Christophe Doucet, qui est intervenu dans plusieurs arbres, dont celui-là. Et alors, il y a des petits éléments qu'il rajoute. Et c'est très, très poétique, c'est très beau. Alors, Christophe Doucet, il vit en France, dans les Landes, et au milieu des bois. Et c'est un homme qui sort très, très peu. Il a un univers qui est propre à lui. Et entre autres, il fait énormément de sculptures avec des animaux. Il fait des masques de bronze qu'on intègre dans l'arbre, et en général on les intègre au milieu des nœuds. Et alors ces masques, on a l'impression que d'un coup l'arbre est le corps du petit personnage.
Un rocher qui s'appelle 1, 2, 3. Un rocher en trois parties, très légèrement galbé. Et puis un rocher avec un dégradé du mauve au bleu, un peu surnaturel.
Une très belle ambiance, l'endroit est parfait, ouais. Ici, hein. Ça, il est très beau.
Les pins sont souvent associés au rocher.
Oui.
Dans la peinture.
En plus, ici, on est dans un jardin de rocaille, enfin la partie
du dessus,
le jardin de rocaille.
Oui, tout à fait.
Bon, là, il y a
la
roseraie, mais ici, c'est le jardin de rocaille.
Ça te plaît? Ça va?
Il est super. Il est vraiment.
Ça me semble être le parcours idéal, c'est quand on remonte de là.
Ouais.
C'est vraiment très beau, il est un peu.
Tout à fait.
Et en même temps, je trouve, tu vois, comme c'est une pièce très visible, ici un peu. À
non,
l'écart, ça ne va pas perturber,
le
travail de François.
Non, loin de là, au contraire. C'est très bien. Non, c'est parfait.
Et Marcel Berlanger, pourquoi le pin est associé au rocher dans la tradition? Vous pensez à la peinture chinoise?
La peinture chinoise, les jardins japonais et Cézanne. Il a peint beaucoup de rochers du sud qui sont très souvent associés à des arbres et à des pins. Ouais.
J'aime bien la texture aussi, comme ça, la manière dont il a.
Oui, enfin, tu vois, c'est cette technique sur une espèce de support très tramé. Hein. Voilà, l'image est très présente. Et puis, tout est en résine, donc c'est assez résistant. Ça va un peu résister à la pluie.
Tout à fait.
Dans mon esprit de conservatrice, je trouve important de balancer entre des grands, grands noms qui font le buzz médiatique et puis de l'art plus contemporain avec des jeunes qui montent, qu'on a l'occasion de montrer au travers d'expositions comme celle-ci. Donc c'est très gai, c'est l'équilibre entre les deux.
Un abri ou une tente, et puis alors sur le sol il y a de la mousse, il y a un peu de végétation, on entend un peu l'eau comme ça qui passe. C'est magique, non? J'ai l'impression d'avoir 6-7 ans quand je vois ça. J'ai fait ces drôles de choses-là. C'est des sculptures en forme de bidon. C'est des bidons que je récupère dans les labos photos. Donc c'est les formes spécifiques pour les bidons Kodak ou Fuji, pour les produits chimiques qu'on utilisait pour développer les photographies argentiques. Et donc je coule de la résine dedans, que je peux mélanger avec des couleurs. Et c'est un peu comme si ces bidons, en puissance, contenaient toutes les images possibles. J'aime bien ça. J'aime bien aussi que ce soit a priori des produits pas très bon pour la santé ou un peu toxique. Une fois qu'ils sont solidifiés, ça va. Et puis les avoir en extérieur dans un jardin. Voilà, il y en a 2-3 comme ça. Et j'aime bien l'aspect chimique. J'aime bien que ce soit des mélanges, que ce soit pas des 1 et des 0, mais que ce soit des produits qui se soient mélangés, qui font des formes, des couleurs, et que ce soit organique. Voilà. On voit que c'est des objets organiques. Pas dans le sens anglais, pas dans le sens bio, mais en tout cas organique et chimique. Quand j'ai vu cet endroit, je me suis dit, est-ce que je vais aller le cacher ici en dessous? Non, ça c'est mon petit endroit secret que je garde pour aller embrasser ma fiancée dimanche après-midi. Les sculptures, je vais les mettre dans un endroit un peu plus visible.
Donc l'exposition précédente et les expositions en général sont quasiment uniquement dans le jardin. Et alors la fois passée, pour comme si de rien n'était, Michel m'a dit allez, 2-3 petites pièces à l'intérieur. J'ai dit non Michel, l'intérieur est classé, on n'y touche pas, mais juste 2-3 petites pièces, l'air de rien. J'ai dit oui, puis cette année il est revenu, m'a dit c'était bien à l'intérieur aussi. J'ai dit oui c'était bien, tu en veux plus? Oui, il me dit nettement plus. Et donc cette fois-ci, on a, je dirais, je pense, plus ou moins une vingtaine d'artistes à l'extérieur et quand même une quinzaine d'artistes à l'intérieur.
À côté des pins, comme
ouais,
ça,
ouais, ouais.
Marcel Berlanger a sa peinture.
Exactement. Si je ne viens pas marcher sur ses pieds et qu'il veut bien que je me mette là tout près, je viendrai là aussi. Benoît Platéus. J'aime bien les images et parfois j'essaie de faire une sculpture. Ouais. Ouais. Mais même, vous voyez, quand c'est une sculpture, c'est un rapport à de loin peut-être avec les images, puisque c'est des produits chimiques qu'on utilise en photographie. Ouais. Je fais aussi de la photo numérique, hein, mais c'est pas la même chose. C'est même pas que c'est pas le même processus, mais c'est pas exactement le même résultat. Et quand vous allez chercher un peu sur les frontières ou les endroits un peu particuliers, vous voyez vite ce que vous pouvez faire avec du numérique et pas avec de l'argentique, et inversement, des choses que vous pouvez faire en argentique et qui ne marchent pas en numérique. Donc c'est une autre technique. Mais en effet, ça fait un peu nostalgique ou technique de vieux. Mais...
Ici, on a une œuvre de Douglas Ayon, qui est un artiste qui vit ici à Bruxelles, qui est anglais, et qui a reproduit, on peut le voir comme peut-être Narcisse. C'est un oiseau qui se regarde dans une bassine. En fait, il est en train de pleurer. Et donc, comme il pleure, les gouttes font des ronds dans l'eau et il ne peut pas vraiment se voir.
L'œuvre de Haraltes et Jos de Groot, toujours, font beaucoup rigoler. J'avais vu leur exposition chez Dépendance, que j'avais aussi énormément appréciée. Je trouve ça assez rigolo. Surtout de voir la tête des gens quand ils découvrent cette sculpture. Donc,
Trois pièces de toile, autoportrait de Le Jardin.
Mais il y a des choses vraiment étonnantes, comme l'artiste Luca Vitone, qui est un artiste italien, qui lui... Alors je trouvais ça aussi intéressant pour le présent et par rapport au jardin. C'est en général quelqu'un qui ramasse dans les lieux les poussières et il en fait un jus et puis il fait des peintures avec ça. Un autoportrait du lieu. Et quand je lui ai parlé de la proposition ici au musée, il a tout de suite eu l'idée de placer dans le jardin des grandes toiles qui sont restées plus ou moins 4 mois ici. On a tendu des toiles. Alors ce sont des toiles en coton tout simplement, c'est pas des toiles de peinture, mais des toiles de coton qui sont restées à l'air libre et clouées au sol pendant 4 mois.
Ils ont imprimé son portrait. Et puis j'ai les cadré sur des carrés de bois. Et maintenant ils sont dans le premier étage. Dans 3 différents lieux. Ils vont parler de le jardin, de l'intimité, de les personnes qu'ils ont vécues dans ce lieu, qu'on voit, c'est un jardin magique, un jardin particulier, dans une ville qui est aussi un petit bijou, un gioiello, des années 30. Et bon, c'est ça, c'est très simple, un geste direct sur l'idée de la peinture, avec l'utilisation des pigments, qui sont des pigments naturels, mais où le peintre, il ne fait pas rien. Il a seulement invité le paysage à faire ses autoretraites.
Et alors c'est assez drôle, parce que le premier jour ou le deuxième jour, quand on les avait à Pintemi, il y avait les traces d'un renard qui était passé, et puis un chat. Et puis après, la nature a fait le reste. Et maintenant, on a 3 tableaux qui sont sortis de cette toile, qui sont magnifiques. On ne voit plus les traces des renards ni des chats, mais on a un tableau... étonnant et qui est très 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 beau. Et c'est ce que je trouve admirable, c'est que c'est vraiment toute l'histoire du jardin se retrouve là d'une manière délicate.
Donc c'est une sorte de ready-made.
Exactement, tout à fait.
Je ne peux pas dire de l'arte povera parce que je suis une génération dernière. Naturellement, pour moi, le travail des artistes comme Giovanni Anselmo, Giulio Paolini, Emilio Prini sont très importants. Quand j'étais jeune, dans les années 80, et naturellement, comme aussi pour moi, peut-être aussi encore plus important, Piero Manzoni, cette idée de penser à un projet direct, très simple, un peu stupide, mais dans la même façon qu'ils vont parler de beaucoup de choses. Un héritage que, naturellement, j'ai pris. Mon nom, c'est Luca Vitone.
Que fait la perruche dans la salle de bain?
Elle divague. Elle se regarde, fait des cabrioles.
À l'intérieur, ce sont des œuvres uniquement déposées. Ce n'est pas du tout intrusif par rapport au côté monument classé.
Elle s'est maquillée, ouais. Peut-être qu'elle vient de loin ou ses ancêtres viennent de loin, mais peut-être elle est née en Belgique, ouais. Je sais pas.
Il y a une sculpture un peu étrange de Charlotte Vandenbosch.
Elle fait partie de la maison et que la salle de bain, il fallait qu'il y ait un petit twist et justement je voulais. Fallait ajouter ce petit côté un peu plus surréaliste, un décalage avec cette maison magnifique. Il y avait. Elle était là.
C'est une perruche qui est censée se maquiller puisqu'elle a du rouge à lèvres qui est un peu déboré partout. Elle est juste devant le miroir. Et on a l'impression qu'elle fait des tractions, des pompages. Voilà.
C'est le lieu de l'intime, oui, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, la seule pièce qui est la plus intime, parce que la chambre, on la voit pas. Enfin, qui est ouverte, mais on ne ressent pas. Mais oui, oui, il y avait ce côté-là qui m'intéressait, oui.
Alors là, je crois qu'il faudra demander à Charlotte qu'elle nous explique un peu plus. Mais ici, elle a une place assez étonnante et ça fonctionne très bien.
Au-dessus de la baignoire, oui. Oui. C'est là qu'elle doit être, en fait. Parce que déjà, le rideau n'existait plus et c'était son... C'était sa place, pour moi, la plus... Enfin, je me suis pas posé la question, en tous les cas. Je me suis dit, c'était là. Donc,
Et vous faites que des oiseaux ?
Non, pas du tout. C'est la première fois. C'était vraiment pour... En fait, je l'ai faite pour cette exposition-ci. Quand Michel m'a parlé du titre de l'exposition, présent, et à la base, je me disais qu'elle allait aller dans le jardin, mais au fur et à mesure que je la travaillais, j'avais plus envie de l'avoir dans le jardin. Je voulais qu'elle fasse vraiment partie de la maison et que ça soit presque... Je l'ai appelé le fou du roi de... Enfin, fou du roi, je l'ai appelé. Charlotte van der Borcht.
Ceci, donc, c'est une sorte de peinture sur papier. En fait, c'est du dessin vu que c'est sur papier, mais ça s'apparente plus à une technique de peinture, de composition assez libre, inspirée par la peinture expressionniste abstraite américaine, et avec des jeux de transparence et de couches et de caches de papier qui reprend un peu l'idée du collage.
Aussi bien à l'intérieur du musée qu'à l'extérieur, on joue avec les éléments et les lieux.
Vincent Chenu. C'est un gros personnage qui a été réalisé en mousse PU, sculpté, et qui est assis sur un canapé. On voit la tête et les mains de couleur chair. Il a un pantalon violet, un pull col roulé vert, un béret noir, et ensuite des chaussettes ou des chaussures noires et blanches. Et il a vraiment des proportions très étranges. Et en même temps, c'est une présence un peu mystérieuse dans le musée. Un décalage un peu... fou ou grotesque, qui est assez drôle, je trouve. Et même, j'entendais parler le personnel du musée qui disait que le soir, quand ils éteignent les lumières, ils ont un petit sursaut en pensant qu'il y a vraiment quelqu'un qui est assis dans le canapé et qui est toujours là, quoi, qui a oublié de partir. Très, très chouette sculpture et très chouette mise en situation, je trouve, avec le musée. Il y a un beau décalage. Une sculpture de Rice Milius.
Bruxelles, ville d'art contemporain. Jusqu'au 30 septembre, au musée Van Buren. Présent, installation dans les jardins dans le musée, avec Isabelle Anspach, Michel Van Dijk.
Une partie des œuvres qui sont faites in situ pour l'exposition, et puis d'autres qui sont des œuvres qui fonctionnaient bien ou qui répondaient bien à la proposition. Il y a dans le jardin d'hiver un tableau de Damien Delepeler, par exemple, qu'il a peint expressément pour le lieu.
Alors, je travaille plus pour des personnes qui me demandent de les aider à faire des collections, avec qui on discute de leurs collections. Il y a éventuellement un petit projet en Asie qui se construit, où j'ai passé un an l'année dernière. Un groupe de jeunes collectionneurs aussi, que j'ai créé il y a 4 ans, et sur lequel on continue à travailler avec des personnes pour faire des visites d'ateliers un peu partout en Belgique, des visites des collections. Donc, ça fait une partie des choses. Puis j'aide parfois un peu à Bruxelles aussi depuis 2 ans.
Quand vous dites jeunes collectionneurs, sont-ils des collectionneurs émergents ?
Ce sont des collectionneurs émergents. Il y a une partie qui était émergente il y a 5 ans, qui aujourd'hui sont plus confirmées. Et puis ça s'ouvre et on donne la place un peu à tous ceux qui veulent venir se joindre à nous.
Sybille Duroy.
Mes collectionneurs ne sont pas des mangeurs de petits fours. On se bat pour ça, pour pouvoir respecter les artistes chez qui on va.
Et ces jeunes collectionneurs achètent-ils des jeunes artistes ?
Oui, oui, oui. Des jeunes et des moins jeunes, mais ils achètent principalement, ils commencent toujours par acheter des jeunes et ils en connaissent plusieurs, oui. On visite des ateliers qui sont des ateliers de jeunes artistes qui sont aux galeries, mais parfois même plein qui n'ont pas encore de galerie et qui, de par ce fait, découvrent une nouvelle génération. Et je visite beaucoup d'ateliers dans mon temps libre et donc on essaye de s'intéresser à tout ce qui est encore parfois un peu caché, émergent. Comme par exemple dans l'exposition qu'on a pour Art Gallery Weekend maintenant au bâtiment Van der Borgt, qui en l'occurrence n'est pas du tout curaté par moi, mais par Louis-Philippe Van Eckhout, et avec des jeunes artistes qui n'ont pas de galerie, qui sont du coup représentés là, pour un peu montrer ce qui se passe et ce qui a lieu à Bruxelles ou en Belgique, parce qu'ils viennent d'un peu partout.
N'est-ce pas un problème pour ces jeunes artistes de ne pas avoir de galerie, justement ?
Je pense qu'il y a énormément d'artistes qui n'ont pas de galerie et pour qui c'est un problème. Les plus jeunes, c'est pas facile, mais je pense que ça fait partie des choses. On essaie justement, au travers de notre exposition, de leur donner une forme de visibilité et puis de leur dire comment faire pour, au travers d'expositions qu'ils organisent eux-mêmes. On a la chance à Bruxelles d'avoir énormément d'artist-run spaces et des non-profits qui va leur donner une forme d'audience et de représentation. Et au travers de ça, je pense qu'il y a quand même des galeristes à Bruxelles qui sont encore curieux de découvrir ce qui se passe et les ajouter à leur programme.
Bruxelles, ville d'art contemporain. Bruxelles Gallery Weekend. Du 6 au 9 septembre, Sybille Duroy.
La place n'est pas toujours facile à trouver et à avoir immédiatement.
Ah oui, il y a pléthore, il y a peut-être trop. Tout le monde devait faire quelque chose pour la rentrée. C'est évident que le Bruxelles Gallery Weekend est un événement qui exige un peu plus de 10 ans maintenant, donc qui est très porteur et du coup il y a énormément d'initiatives à gauche, à droite, qui veulent être dans le wagon. C'est un peu comme au mois d'avril quand il y a le vernissage de la foire de Bruxelles. Bon, la veille, il y a aussi plein de manifestations parce que
Albert Baronio.
Le Bruxelles Gallery Weekend comme Art Bruxelles sont censés attirer du monde intéressant et de l'étranger. Alors voilà, ce sont des dates. Pour ma part, parce qu'on va parler sûrement d'Art on Paper. Bon, je leur ai toujours dit que ce serait bien de faire une foire autonome complètement à des dates différentes et s'inscrit dans un calendrier plus souple, parce que ce que je crains, c'est que cette pléthore d'événements va amener énormément de monde qui vont disperser partout. Et de toute façon, le visiteur, le collectionneur, l'amateur d'art ne pourra pas tout faire. Voilà.
Justement, je vais aussi rencontrer un galeriste qui est installé depuis très longtemps, Albert Baronio, et lui poser la question, n'est-ce pas trop d'avoir de plus en plus d'événements au fil du temps, de ne plus savoir où aller tellement il y a de choix? C'est une bonne chose, mais est-ce pas un risque d'être noyé?
Il y a une focalisation pour le moment sur Bruxelles et c'est pas moi qui vais m'en plaindre.
Alors nous sommes à la veille de 3 jours importants que vous connaissez bien.
Oui, le Gallery Weekend, ça va être notre 11e édition. Commence jeudi soir dans toutes les galeries, de 17 à 21h, il y a un vernissage, tout le monde est le bienvenu. On a 39 galeries cette année, et ensuite vendredi, samedi, dimanche, les galeries et tout le programme off qui est constitué de musées, artist-run spaces, un projet basé sur la performance, et alors notre projet Meeting Point, qui sont dans le Van der Borgt, sont ouverts de 11h à 19h. Et on espère que tout le monde sera là. Il y a des shuttles publics pour se balader dans la ville et découvrir des lieux qui sont parfois oubliés ou parfois boudés parce qu'on a peur des galeries.
L'engouement, il date déjà de quelques années. On s'est rendu compte que Bruxelles attire énormément d'artistes et maintenant attire des galeries, parce qu'il y a 3 choses.
Alors peut-être de par le fait qu'il y a énormément de galeries, de foires d'art, etc., beaucoup de musées ou activités, il y a beaucoup moins de public qui rentre dans les galeries, des personnes qui vont dans les galeries, vont parfois voir les expositions sur Internet, mais ne passent plus le pas de la porte. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Gallery Weekend a été créé en partie il y a plus de 10 ans. C'était pour se faire reconnaître et pour réinviter un public à venir et à pousser la porte et venir découvrir ces expositions qui sont des expositions de très bons artistes belges, internationaux et qui ont de très beaux programmes et qui méritent d'être vus. En plus, c'est chaque fois des expositions gratuites. C'est dommage que le public ne connaisse pas ça. Donc, oui, parfois oublié. Et on espère un peu moins après chaque Galerie Week-end.
Il y a la situation géographique. Bon, capitale de l'Europe, on est à 1h20 de Paris, 2 heures de Cologne, moins de 2 heures d'Amsterdam, 2 heures de Londres. Bon, c'est la situation géographique, Bruxelles. 2, les loyers sont attractifs, hein, par rapport à d'autres grandes villes, par rapport à Paris, par rapport à Londres, il n'y a aucune comparaison. Donc il y a une pléthore d'artistes qui viennent s'installer à Bruxelles à cause de ça. Ils trouvent plus facilement des ateliers. Et puis 3, à tort ou à raison, Bruxelles attire énormément de galeries de l'étranger parce qu'il y a ce mythe du collectionneur belge qui dure toujours et qui perdure. Et oui, oui, il existe avec beaucoup d'atténuation pour moi, mais bon, c'est évident que la Belgique compte, et Bruxelles en particulier, compte énormément de collectionneurs. Mais c'est un miroir aux alouettes. Il y a beaucoup de galeries qui viennent, qui se rendent compte que ce n'est pas si évident que ça, que ce n'est pas plus facile que dans leur pays d'origine, et qui rebroussent chemin. Mais bon, voilà. Donc, c'est d'autant plus paradoxal que nous n'avons pas de musée d'art moderne, que nous n'avons pas de musée d'art contemporain, que l'offre muséale est vraiment faible, hein, pour ne pas dire inexistante.
À la base, c'est moi, mais avec les autres personnes de l'ASBL, on réfléchit à différents projets et donc on a voulu s'impliquer un peu plus pour la ville. Et donc, on a demandé à une de nos anciennes stagiaires de l'année dernière, elle a sélectionné des élèves de l'ULB, de la VUB, qu'elle forme avec moi, qui vont faire les visites guidées pour le grand public. Et alors également pour des écoles à qui on offre des visites guidées après le Galerie Week-end, pendant les heures d'école. Ce sont des écoles qui sont plus souvent des écoles qui n'ont pas l'argent pour payer des visites guidées et qu'on aide pour donner quand même un accès à la culture sur quelques heures par semaine. On a fait nos dossiers pédagogiques aussi. Et puis les assistantes qui travaillent avec nous, aujourd'hui on en a pas mal, sont toutes des anciennes stagiaires en fait. Donc on permet à celles qui ont fait un stage avec nous d'être payées ensuite et d'être engagées par le Galerie Week-end. C'était l'idée. Tous ceux qui aident sur le Galerie Week-end sont ensuite, par exemple pour les installations, etc., on essaie de leur trouver des jobs, etc., par après. C'était un système un peu pyramidal parce qu'on s'est rendu compte, moi en tant qu'ancienne directrice dans les galeries, que beaucoup de jeunes veulent rentrer dans le monde de l'art, mais ne savent pas comment. Et ce n'est qu'à partir du moment où on se crée un réseau et qu'on rentre en contact qu'on y parvient. Et donc, je me suis dit, à tous les niveaux, on doit essayer au travers du Galerie Week-end, parce qu'on a justement ce système de réseau, de galeries, de musées, etc., de parvenir à créer des ponts entre les différentes générations et à venir soutenir justement un autre niveau, la jeune génération, que soient les étudiants d'école, d'université, les jeunes artistes dans notre exposition Generation Brussels, et de leur servir de levier, ce qui a été discuté d'ailleurs avec le comité des galeries et qui trouvait super. Et donc on a commencé à développer tout ça à notre niveau, mais on a contacté même des associations justement qui font de la médiation culturelle, etc., pour pouvoir aussi avoir un côté soutenant et pas que, comme tout le monde le croit, être un projet commercial, ce que nous ne sommes pas en fait. Nous, on est une petite ASBL qui fonctionne en dehors des galeries et on fait quand même un peu d'autres choses.
C'est d'autant plus paradoxal que nous n'avons pas de musée d'art moderne, que nous n'avons pas de musée d'art contemporain, que l'offre muséale est vraiment faible, hein, pour ne pas dire inexistante. Et bien voilà, le Bruxellois, la ville de Bruxelles, l'esprit belge attire du monde et c'est tant mieux.
Bruxelles comme une des villes dans lesquelles beaucoup de choses se passent dans l'art. Je ne sais pas si on est la capitale mondiale de l'art, ce serait quand même un peu beaucoup. Justement, de par le fait que j'ai vécu maintenant l'année dernière pendant un an en Asie, d'avoir fait des allers-retours, je trouve que à chaque fois, on voit qu'il y a des choses qui bougent dans Bruxelles, que ce soit dans l'art ou même dans les restos. Il y a une dynamique qui est là. Les galeries, chaque année, on a des nouvelles galeries. On a des jeunes qui étaient des non-profits qui se transforment en galeries. On a des étrangers en plus. Il y a une énergie et un dynamisme. Quand on va voir tous les ateliers d'artistes, il y a même plusieurs étrangers qui s'installent ici, où ils sont à 10 dans des complexes. Il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Ça bouge beaucoup. Maintenant, on fait partie des... On n'est sûrement pas le numéro. Hein. Ça, je ne me serais jamais avancée à le dire. Oui, c'est terrible. Enfin, moi, personnellement, je n'arrive plus à aller partout. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on a Internet, donc on peut se rattraper en allant voir sur Internet. Un troisième souci, c'est qu'il y a Instagram et que tout le monde poste tout partout et que tout le monde veut montrer qu'il était partout et qu'on est noyé. Moi, très personnellement, alors je suis peut-être un garde pour ma génération, mais j'ai pris le parti de ne pas tout voir et de ne pas tout faire et d'essayer de me concentrer sur les choses que soit des amis artistes ou des amis curateurs, et puis ensuite, par rapport à ce que je connais ou recherche, et d'être ciblée et de savoir ce que je raconte sur ce que je connais. Parce que sinon, ça devient, je pense, un peu compliqué. Je dois sûrement être un peu lente, mais j'arrive pas à tout emmagasiner. Je préfère savoir ce que je raconte sur les choses sur lesquelles je me suis concentrée. Sinon, c'est pas possible, je pense.
Cécile Servet pour la galerie Quai 4. Quai 4 à Liège, sur le quai Churchill, au pied du pont Kennedy. Ça fait 4 ans qu'on est installé maintenant. Ma présence à Bruxelles pour la foire Aaron Paper, où on présente une jeune artiste française, Gaëlle Chautard, qui est également représentée par une galerie parisienne et qui a un travail magnifique. Donc c'est une dessinatrice à la base, dessin encre de Chine sur papier, mais ses dessins, elle les transforme aussi en 3D, en tricotant et en crochetant le fil métallique. Elle y accroche aussi des cordes guitare. Et bon, tout ça est très aérien. Voilà, elle nous fait voyager dans ces paysages, simplement.
Nous parlons dans une voiture qui est garée à côté du Palais des Beaux-Arts,
oui. Hein,
qui est un week-end. Vous serez présent, Albert Baronian, dans ce palais?
Honnêtement, non, je serai très peu parce que j'ai une exposition à la galerie en même temps. Hein, c'est ça, c'est la multiplication. Donc la galerie sera présente. Moi, je serai physiquement présent, bien sûr, au vernissage. Mais j'essaierai de passer le week-end. Mais j'ai une exposition pour moi de Gilberto Zorio qui est pour moi très importante.
Le comité a pris le parti, je pense, j'étais pas là au tout début, mais de choisir une sélection de galeries qui font, a priori, un travail de galeriste à soutenir leurs artistes, à travailler à l'international, à participer justement à des foires et avoir un programme qui soit en ligne avec la vision du comité. L'idée étant de pouvoir présenter le côté qualitatif du programme de Bruxelles et puisse attirer aussi un public international. Dire que c'est injuste qu'il y en ait d'autres qui ne soient pas dedans, oui. Après, je sais qu'il y a d'autres parcours qui sont là et qui complètent le nôtre. Je sais, et on l'a constaté encore ce matin, une stagiaire a fait l'erreur, c'était assez rigolo, en postant sur Instagram une galerie qui ne participe pas au Galerie Weekend, mais ils notent tous qui font partie du Galerie Weekend. Je pense même pas que ça pose un vrai problème. Pour finir, c'est peut-être leur sélection qui est la force de générer tout ce qui a lieu, par exemple, cette semaine. On a maintenant Aaron Paper s'est mis sur nos dates. Performance Affair s'est mis à nos mêmes dates. On a plein de galeries qui ne font pas partie de notre programme qui sont mis à nos dates et notes qui font partie du Galerie Weekend. Plein de jeunes artistes qui créent leurs expos et notes qui sont Galerie Weekend, font leur pub comme ça sur Facebook. En toute modestie, parce qu'on n'en est pas du tout là, c'est la même chose à Berlin. Et ça permet, les gens, le public, il va passer partout.
Albert Baronian, vous qui êtes actif depuis les années 60 ?
73. 73, pardon.
73.
Ouais, une vieille relation que j'ai avec Sorio, et c'est un artiste important. Pour moi, c'est, et le Bruxelles ce week-end va attirer énormément de monde. Je serai plus présent physiquement dans ma galerie. Mais la galerie, une de mes collaboratrices et une de mes directrices sera en permanence dans le stand d'Art & Paper.
Oui, Zorio, que j'ai pu rencontrer avec Yanout, d'ailleurs, oui, dans votre galerie,
oui.
Se situait...
Avenue Milibico, tout à fait, oui. Absolument, Yanout avait fait un petit speech à l'époque sur le travail de Zorio, oui.
Un acteur de l'Arte Povera, important.
Tout à fait, un des derniers survivants, parce qu'il y en a beaucoup sont morts ces derniers temps. Et lui, Pistoletto et Anselmo sont les derniers. Il y a Marisa Merz, la femme de Mario qui est mort, qui sont encore les survivants. Fabro, Kounelis, Mario Merz, Boetti étant décédés.
Art & Paper au Palais des Beaux-Arts, du 7 au 9 septembre. Albert Baronian, Cécile Servet.
C'est la première fois que je participe à une foire, en effet. Tout à fait. Qui est une foire, je pense, de renom, avec 50 galeries internationales. Donc il y a un peu du stress là derrière.
Art & Paper, que du travail sur papier, oui. Que je trouve, bon, c'est pas nouveau comme idée. Hein. Il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de villes. Paris fait ça depuis des années aussi. Voilà, c'est la 4e édition. Des one-man shows, c'est ça qui est intéressant. Chaque galerie choisit un artiste qui travaille essentiellement sur le papier, voilà. Et moi, je vais présenter l'artiste franco-berbère Achraf Touloup, surtout connu pour ses dessins à l'encre, ses dessins en crayon, que je trouve très, très intéressants. Voilà. C'est l'accès à l'art contemporain, c'est l'accès à l'art de manière démocratique. Et c'est pour ça que la galerie ne néglige pas cet aspect-là, ça fait partie de la galerie, du rôle d'une galerie, d'établir aussi sur le futur, sur les jeunes collectionneurs en devenir, etc. Et il y a des gens qui voudraient acheter de l'art, mais qui ne peuvent pas se permettre. Mais bon, un dessin, 3 000, 4 000, 5 000 euros, c'est plus abordable. Très important.
Ce week-end, en piste, est un événement organisé par la ville de Liège qui propose aux galeries au centre d'art liégeois de présenter leurs artistes. Donc ce week-end, à partir de vendredi, 30 centres d'art et galeries liégeoises privées seront présents pour présenter leurs œuvres. Pas vraiment une foire commerciale, c'est plutôt une foire de découverte à la Beauvrie pour la 4e année. Et l'accès est libre. Cécile Servet, pour la Galerie Quai 4.
Et moi, j'ai commencé par des gravures aussi, mon premier achat. J'ai remarqué que le Belge, contrairement à l'Allemand et au Hollandais, aimait bien les pièces uniques. Donc la lithographie, la sérigraphie, c'est difficile pour le public belge, alors qu'effectivement, le Belge aime bien la pièce unique. Mais vous avez raison de dire, beaucoup de collectionneurs ont commencé par la gravure, la lithographie. On achète des lithos d'artistes déjà conséquents, connus, qui coûtent plus cher, mais bon, dont les prix en litho sont abordables. Mais maintenant, comme il y a quand même un engouement pour l'art contemporain, des artistes plus jeunes, c'est plus intéressant pour le collectionneur d'avoir un dessin d'une œuvre originale. Et puis voilà, le dessin, c'est quelque chose d'important. On ne triche pas avec le dessin. C'est là qu'on reconnaît aussi la patte des grands artistes, s'ils savent dessiner ou pas. Je ne dis pas que c'est primordial à un artiste de savoir dessiner, mais bon, il y a des très beaux dessins de sculpteurs qui sont très importants. Les sculpteurs ont une facilité pour le dessin. Maintenant, ici, Art & Paper, vous allez voir des œuvres, j'imagine des aquarelles, des lagouas sur papier. C'est le support et le papier. Voilà, tout le monde ne fait pas du dessin.
À Liège, le médium n'a pas d'importance. C'est plutôt des œuvres qui nous touchent. Voilà, on fonctionne principalement sur l'instinct. On repère des œuvres qui nous interpellent. On rencontre les artistes. Et si ça fonctionne, on leur propose une exposition. Expo solo ou expo de groupe. Pour l'instant, c'est une expo des dessins avec 8 artistes différents à la galerie, encore 15 jours. Liégeois, international, jeune, 80 ans, toujours jeune dans la tête. Léon Huidard, par exemple. Charles-Henri Sommelette, Gérald Edraine, Mégane Miquin.
Bruxelles, ville d'art contemporain. Jusqu'au 30 septembre, au musée Van Buren. Présent. Installation dans les jardins dans le musée. Avec Isabelle Ansbach, Michel Van Dijk, Jonathan Sulam, Lucas Fitonnet, Marcel Berlanger, Benoît Plateus, Charlotte Van der Borg, Vincent Chenu, et les voix d'Anthony Caro, Anne-Claudie Coric et Marie Goyet. Bruxelles Gallery Weekend, du 6 au 9 septembre, Sybille Duroy. Art on Paper au Palais des Beaux-Arts, du 7 au 9 septembre, Albert Baronian, Cécile Servet. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.